ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des adagios, des allegro et moderato, c'est Tutti Quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Un magazine où nous continuons à feuilleter l'abécédaire de la musique classique. Nous en sommes à la lettre J, J comme jeunesse et joie, autrement dit, les caractéristiques principales de notre technicien Arnaud. J, alors, on va commencer avec la musique, on en joue, et donc on va commencer avec un jeu. Sauf que le mot jeu, ici, il n'est pas tout à fait dans le sens habituel. On va écouter une pièce extrêmement ancienne, le jeu de Robin et Marion. Donc il s'agit bien ici, en réalité, d'une sorte de pièce de théâtre dans laquelle s'instillent des extraits musicaux. C'est un ouvrage extrêmement ancien, on est au XIIIe siècle, c'est une pièce d'Adam de la Halle, probablement de la fin du XIIIe siècle. On estime qu'il l'a composé, le jeu de Robin et Marion, entre 1270 et 1280. Adam de la Halle, il était né à Arras, mais il a fait une carrière très européenne. Il est possible que le jeu de Robin et Marion, d'ailleurs, ait été composé lors d'un voyage en Italie. L'histoire est extrêmement simple. Marion est une bergère. Elle est, on dirait aujourd'hui, elle est un peu draguée par un chevalier. Mais non, Marion, elle aime un autre berger qui est Robin. Et donc, elle va éconduire le chevalier. Je propose donc d'écouter cette première scène du jeu de Robin et Marion. Donc il s'agit bien de Marion et du chevalier ici. C'est l'ensemble Perceval qui est dirigé par Guy Robert qui l'interprète.
Thank you. Dieu vous doit une bonne jour.
Dieu vous garde, sire.
Par amour, douce pucelle. Or me contez pourquoi cette canson cantée si volontiers, si souvent.
Hé, Robin, si tu m'aimes, par amour mènement.
Tiens, sire, il y a bien pourquoi. Car j'aime Robin, et il m'ouit. Et bien m'a montré qu'il m'a chère. Donnez-moi cette panetière, cette houlette et cette coutelle.
Parfois, or suis-je esbaudi. Jamais je ne fus si gabé.
Sire, foi que vous me devez. Quelle bête est-ce sur vos mains?
C'est un faucon.
Mange-t-il pain?
Non, mais point de char.
Cette bête, oh regarde, elle a de cuir la tête. Et où allez-vous?
En rivière.
Robin n'est mis de telle manière, à lui a trop plus de déduit. En nos villes, et muet tout le bruit quand il joue de sa musette. Robin m'a
raconté. Douce bergerette, aimeriez-vous un chevalier?
Tiens aussi, tirez-vous arrière, je ne sais que chevalier sont. De sort tous les hommes du monde, je n'aimerai que Robin. Il vient au soir et au matin, à moi toujours et par usage, il m'apporte de son fromage, encore en neige un mincin, une grande pièce de pain qu'il m'apporta. À mon chien.
Or me dites, douce bergère, vouliez-vous venir avec moi, jouir sur ce bel palefroy, le long ce bosquet en ce val?
De cheval avant qu'il ne m'ablétille. Celui de Robin rumine quand je vais après sa carrure.
Bergère, devenez ma dru et faites ce que je vous prouille.
Sire, trahions de moi si être point ne vous a fierte. À votre cheval point ne me fierte. Comment vous appelle-on?
Aubert.
Vous perdez vos peines, sire Aubert. Je n'aimerai autrui que Robin.
Non, bergère.
Non, par ma foi.
Croiriez-vous dominer sur moi, qui si loin de jeter me prouillait? Chevalier suis, et vous, bergère.
Je pour ce ne vous aimerai. Berge honnête, suis péché, ami belle et couette et gai.
Bergère, Dieu vous en doit jouer. Puisqu'on s'y est, j'irai m'avouer. Jamais ne vous sonnerai mot.
Trahir de l'Urgion, de l'Urgion, de l'Urgel. Trahir de l'Urgion, de l'Urgion, de l'Urgel. Puis me jeter vos tuer, les lorières d'avouer. Trouvez gentil bergère, la belle de vivre.
C'était le jeu de Robin et Marion, donc de la musique du XIIIe siècle. On va rester dans cette notion de jeu, mais cette fois-ci des jeux au pluriel. Donc il y a des jeux avec un X, avec une pièce beaucoup plus récente, une pièce de Debussy, une pièce qui date de 1913, qui, quelque part, au départ, est une commande. C'est le chorégraphe Nijinsky qui, en 1913, il voulait pas se contenter du Sacre du Printemps et du scandale qu'il a provoqué avec ce Sacre du Printemps. Il demande à Debussy une pièce, alors sur un argument extrêmement simple. Je vous lis donc l'argument, le synopsis de la pièce. Dans un parc au crépuscule, une balle de tennis s'est égarée. Un jeune homme, puis deux jeunes filles s'empressent à la rechercher. La lumière artificielle des grands lampadaires électriques, qui répand autour d'eux une lueur fantastique, leur donne l'idée de jeux enfantins. On se cherche, on se perd, on se poursuit, on se querelle, on se boude sans raison. La nuit est tiède, le ciel baigné de douce clarté, on s'embrasse. Mais le charme est rompu par une autre balle de tennis jetée par on ne sait quelle main malicieuse. Surpris et effrayé, le jeune homme et les deux jeunes filles disparaissent dans les profondeurs du parc nocturne. Alors, Jeux de Debussy est une pièce qui n'a pas recueilli un grand, grand succès, il faut bien le dire. Sans doute en grande partie à cause de la chorégraphie de Nijinsky, qui n'a pas séduit, en tout cas qui n'a pas séduit Debussy du tout. Debussy écrivait sous le nom de Monsieur Croche dans la presse, et voilà ce que Debussy écrit lui-même quelques jours, donc après cette création. Donc c'est un article du Matin. Je ne suis pas un homme de science. Je suis donc mal préparé à parler de danse, puisque, aujourd'hui, on ne saurait rien dire de cette chose légère et frivole sans prendre des airs de docteur. Avant d'écrire un ballet, je ne savais pas ce qu'était un chorégraphe. Maintenant, je le sais, c'est un monsieur très fort en arithmétique. Je ne suis pas encore très érudit, mais j'ai retenu pourtant quelques leçons. Celle-ci, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, un peu plus vite, et puis on fait le total. Ça n'a l'air de rien, mais c'est parfaitement émotionnant, surtout quand ce problème est posé par l'incomparable Nijinsky. Pourquoi me suis-je lancé, étant un homme tranquille, dans une aventure aussi lourde de conséquences ? Parce qu'il faut bien déjeuner. Et parce que un jour, j'ai déjeuné avec Monsieur Serge de Diaghilev, homme terrible et charmant, qui ferait danser les pierres. Il me parla d'un scénario imaginé par Nijinsky, scénario fait de ce rien du tout subtil, dont j'estime que doit se composer un poème de ballet. Il y avait là un parc, un tennis, la rencontre fortuite de deux jeunes filles et d'un jeune homme à la poursuite d'une balle perdue. Un paysage nocturne, mystérieux, avec ce je ne sais quoi d'un peu méchant qu'amène l'ombre, des bonds, des tours, des passages capricieux dans les pas, tout ce qu'il faut pour faire naître le rythme dans une atmosphère musicale. Alors on va retrouver cette atmosphère musicale, on écoute la fin de « Jeux » de Debussy, dirigé par Pierre Boulez.
Thank you.
On va retourner maintenant à la musique un peu plus ancienne, avec des origines d'ailleurs qui se trouvent au XIIe siècle avec la rota. Alors là, je ne vais pas jouer aux grands musicologues, il y a d'autres musicologues que moi qui se sont penchés sur la rota.
Quand je joue ça, les gens disent « Tiens, il va jouer la rota !» La rota. La vraie rota. La rota, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, la rota. Parce qu'il y en a qui font des petits... Oh. Oui, mais la rota, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, la rota. Parce qu'il y en a qui font n'importe quoi. Alors, on dit « joue ». Oui, joue. Alors il fait des, vous savez, virtuos. Oui, mais la rota, c'est ça, n'est-ce pas? Un jour, il y a un copain qui m'a joué un truc comme ça, lui. Il m'a joué ça. Mais j'ai, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, il dit, je frappe. Ben, je dis pour la rota, faut pas te frapper, c'est ça la rota. C'est ça la rota. Je sais pas ce que c'est comme rythme. C'est pas une bourrée. C'est pas une bourrée, hein. Non. La bourrée, c'est... Je sais pas. Mais la rota, c'est ça. Je sais pas ce que c'est comme rythme, c'est dansant. C'est pas un tango. C'est pas un tango. Ah non, non, le tango c'est beaucoup plus, ça fait. Mais la rota c'est ça, n'est-ce pas?
Vous avez évidemment reconnu Raymond Devos dans son sketch La Rota, c'est ça. On va écouter cette fois-ci une vraie rota, puisque évidemment cette danse populaire espagnole a influencé considérablement de nombreux compositeurs, et bien sûr de nombreux compositeurs espagnols, comme par exemple Francisco Tárrega dans sa grande rota aragonaise que va interpréter pour nous Emmanuel Rosfelder.
Thank you.
Oui, mais la rota, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, la rota.
La rota a eu une capacité à s'exporter de façon assez étonnante. Il faut dire que la musique espagnole, avec son côté très ensoleillé, a beaucoup séduit des compositeurs européens. C'est le cas, par exemple, de Camille Saint-Saëns, dont l'opus 64 est une rota aragonaise que je vous propose d'écouter, interprétée par le London Philharmonic Orchestra, que dirige Geoffrey Simon. C'était la rota aragonaise de Camille Saint-Saëns. Autre compositeur extrêmement européen, puisqu'il passait son temps entre la France, la Hongrie, l'Allemagne, c'est Franz Liszt. Franz Liszt, lui aussi, a été très inspiré par la rota aragonaise. Je propose d'écouter donc cette pièce, la rota aragonaise, ici dans un arrangement d'un autre pianiste un petit peu plus tardif du XXe siècle, Busoni, qui a repris la page de Liszt, mais en, voilà, en l'agrémentant, en la rendant encore plus virtuose. Voici donc la rota aragonaise de Liszt, revue par Busoni, interprétée par Joshua Pierce et Paul Friedman, qui dirige l'Orchestre philharmonique de Moscou.
Oui, mais la rota, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, la rota.
Les jeux, on peut les regarder aussi, et notamment les jeux que font les fontaines, les jeux d'eau que font les fontaines, qui caracolent et cascadent, et qui ont interprété pas mal de compositeurs. Je vous parlais il y a un instant de Franz Liszt. Franz Liszt a essayé de retranscrire musicalement les jeux d'eau de la Villa d'Este, mais ce sont d'autres jeux d'eau que je vous propose d'écouter, ceux de Ravel, dans cette pièce qui s'appelle tout simplement Jeux d'eau. J'ai choisi ici l'interprétation de Martha Argerich. Alors c'est un relativement vieil enregistrement, 1961. Martha Argerich était toute jeune, c'était quasiment le disque qui a lancé sa carrière. Voici donc les très virtuoses Jeux d'eau de Ravel, interprétés par Martha Argerich. Thank you. Bien évidemment, le jeu est quasiment systématiquement associé à l'enfance et aux descriptions musicales des jeux d'enfants. Georges Bizet s'y est appliqué dans sa suite Opus 22, dont je vous propose d'écouter la cinquième pièce qui s'appelle Galop et Bal. C'est l'orchestre Les Siècles qui l'interprète sous la direction de Xavier Roth. Certains jeux d'enfants ne sont pas possibles, ils sont évidemment interdits. Alors voilà, jeux interdits, on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette idée, sur ce concept. Jeux interdits sur morceau de guitare que quasiment tous les adolescents et adolescentes ont essayé un jour ou l'autre. On va écouter la version d'origine de ce jeu interdit. C'est donc une pièce... Alors, Narciso Yepes, qui en était le premier interprète, dit que c'est une pièce qu'il avait retrouvée. On ne sait pas trop, en réalité, si c'est lui qui, s'il a retrouvé une pièce existante ou si c'est lui qui l'a composée. En tout cas, on va retrouver donc cette romance de Jeux interdits dans sa version d'origine. Et puis, tout de suite après, on va enchaîner avec une autre version de Jeux interdits. Une version qui a été arrangée et orchestrée par Michel Legrand à la demande de Maurice André. C'est donc un orchestre complet avec une trompette soliste qui reprend cette pièce donc, qui était originellement conçue pour guitare. Voici donc ces deux versions de Jeux interdits.
Thank you.
Le jeu, mais on espère qu'il garde de l'importance dans votre vie, qu'il y a de la place encore pour des divertissements. Et pour terminer ce Tutti Quanti, on ne peut que ce que vous souhaitez, que règne pour vous plaisirs et jeux. Régnez plaisirs et jeux, c'est le texte du prélude de l'acte 4 des Indes Galantes de Rameau que nous écoutons, interprété par les Arts Florissants, que dirige William Christie. C'était donc le prélude du quatrième acte des Indes Galantes de Rameau. C'est avec cette invitation au plaisir et au jeu que se termine ce Tutti Quanti consacré à la lettre J. On se le retrouve, si vous en êtes d'accord, dans 15 jours pour essayer d'aborder la lettre K.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tout.